deux extraits de Les gouvernants sont immoraux, Léon Tolstoï. Chapitre 6. Inutilité de l'État. Que sont de nos jours les gouvernements sous lesquels les hommes ne croient pas pouvoir vivre? S'il fut un temps où le gouvernement apparaissait comme un mal nécessaire, ou moins grand que celui qui pouvait résulter du manque de défense contre des voisins organisés, il n'est pas douteux qu'il soit devenu aujourd'hui inutile et un mal bien plus grand que celui dont il effraye le peuple. Le gouvernement, en général, pas seulement militaire, pourrait être inoffensif, je ne dis pas utile, s'il était composé d'hommes sains, infaillibles, comme le conseille la sagesse chinoise. Mais par la nature même de son activité, toute de violence, le pouvoir est détenu par les plus immoraux, grossiers et impudents des hommes. Tout gouvernement, à plus forte raison celui qui dispose d'une force armée, est la plus terrible et la plus dangereuse des institutions existantes. Le gouvernement, dans le plus large sens du mot, en y comprenant les classes fortunées et les membres de la presse, n'est qu'une organisation qui met la majorité des hommes à la discrétion d'une minorité qui détient le pouvoir. Celle-ci se soumet à son tour à l'autorité d'un groupe d'hommes plus restreint encore. Celui-ci à un autre moins nombreux. Et ainsi de suite, jusqu'au sommet de la pyramide hiérarchique où sont placés quelques hommes ou un seul qui doivent à la force armée leur domination sur leurs semblables. Au sommet de cette pyramide s'installent toujours quelques-uns ou un seul, qui font preuve de plus de ruse, d'audace ou d'immoralité, ou ceux qui sont leurs héritiers. Aujourd'hui, c'est Boris Godounov. Demain, c'est Grigori Otrepiev. Aujourd'hui, c'est la débauchée Catherine qui fait étrangler son mari par ses amants. Demain, c'est Pougatchev. Après-demain, le fou Paul, Nicolas Ier, Alexandre III. Aujourd'hui, c'est Napoléon, demain un Bourbon ou un d'Orléans, Boulanger ou la bande des Panamistes. Aujourd'hui, c'est Gladstone, demain Salisbury, Chamberlain, Rhodes. Et c'est à ces gouvernants qu'on donne plein pouvoir, non seulement sur les biens et sur la vie de tous, mais même sur l'instruction, l'éducation religieuse, morale et intellectuelle des hommes. Nous construisons une terrible machine gouvernementale. Laissons s'en emparer qui le veut, et la chance favorise toujours les pires. Nous nous soumettons servilement au maître, et puis nous nous étonnons de notre situation précaire. Nous avons peur des bombes des anarchistes, et nous ne nous effrayons pas devant l'horrible organisation qui nous menace des plus grandes catastrophes. Les hommes se laissent ligoter au point qu'une seule personne peut les conduire à sa guise. Ils laissent traîner le bout de la corde qui les lie, et le premier scélérat, ou sot, qui veut s'en saisir, fait d'eux ce qu'il veut. N'est-ce pas le cas de tous les peuples qui instituent et maintiennent le gouvernement, appuyés sur la force armée et se soumettent à lui? Mais pouvons-nous vivre sans gouvernement? Ce sera le chaos, l'anarchie, la perte de tous les fruits de la civilisation, le retour des hommes à l'état sauvage. Si vous touchez à l'ordre des choses établies, si vous abolissez le gouvernement, les plus grands malheurs nous assailliront. Émeutes, pillages, meurtres, et finalement ce sera le règne de tous les méchants et l'asservissement des bons. Ainsi parlent non seulement ceux à qui l'état des choses actuelles est profitable, mais ceux-là même à qui il est manifestement nuisible et qui cependant ne pensent pas pouvoir vivre sans lui, tellement ils y sont habitués. Les hommes qui sont au pouvoir affirment que leur autorité est nécessaire, afin d'empêcher les méchants de maltraiter les bons, entendant par là qu'ils sont les génies bienfaisants protégeant ceci contre cela. Mais dominer veut dire violenter. Violenter veut dire faire contraire à la volonté de celui qui est l'objet de l'oppression, et certes contraire à ce que ne voudrait pas supporter celui qui violente. Par conséquent, être au pouvoir veut dire faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît. Autrement dit, être au pouvoir, c'est faire du mal. Se soumettre, c'est préférer la résignation à la violence. Et préférer la résignation, c'est être bon ou moins méchant que ceux qui font aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fît. C'est pourquoi ce ne sont pas les meilleurs, mais les pires qui, selon toute probabilité, ont toujours été au pouvoir et qui y sont encore. Il peut y avoir des méchants parmi ceux qui se soumettent au gouvernement, mais il n'arrive jamais que les meilleurs dominent les pires. C'est pourquoi, sans insister sur les faits que les émeutes, pillages, meurtres qui pourraient aboutir au règne des méchants et à l'asservissement des bons se produisent déjà aujourd'hui, je ferai remarquer que la croyance à la possibilité de troubles et de désordres que provoquerait l'abolition de l'ordre actuel ne prouve nullement que cet ordre soit bon. Si vous touchez à l'organisation existante, vous causerez les plus grands désastres. Retirez seulement une brique, des milliers d'autres formant une colonne étroite, haute de plusieurs mètres, et aussitôt elle s'écroulera et toutes les briques se briseront. Mais qu'on ne puisse retirer une seule brique ou lui donner le moindre coup sans que la colonne s'effondre, cela ne prouve nullement qu'il soit raisonnable de laisser toutes ces briques rangées d'une façon aussi irrationnelle. Cela prouve au contraire que la disposition des briques est mauvaise. Il faut donc les disposer suivant un ordre qui assure leur équilibre, afin qu'on puisse les déplacer sans détruire celui-ci. Il en est de même de l'organisation de l'État moderne. Elle est artificielle et chancelante. Et le fait que le moindre choc peut la détruire, loin de démontrer son utilité, prouve au contraire que si elle eut jamais sa raison d'être, elle est devenue aujourd'hui complètement inutile, donc nuisible et dangereuse. Elle est nuisible et dangereuse parce qu'avec elle, tout le mal qui existe dans la société, au lieu de diminuer, augmente et s'affermit. Et il augmente et s'affermit parce qu'il est justifié et revêtu de formes séduisantes ou bien il est dissimulé. Cette prospérité des peuples qui nous apparaît dans les États soi-disant bien organisés et qui sont gouvernés à l'aide de la violence n'est en réalité qu'une apparence, qu'une fiction. Tout ce qui trouble la belle ordonnance extérieure, tous les meurs de faim, tous les malades, tous les débauchés hideux, tous sont cachés en des endroits où ne nous pouvons les voir. On ne les voit pas, mais cela ne prouve pas qu'ils ne soient pas. Ils sont au contraire d'autant plus nombreux qu'ils sont mieux cachés. Et ceux qui sont cause de leur misère se montrent d'autant plus cruels envers eux. Il est certain que l'arrêt de l'activité gouvernementale, autrement dit de la violence organisée, troublera la belle ordonnance extérieure de nos sociétés. Mais elle ne les désorganisera pas, elle fera seulement apparaître la désorganisation cachée et nous permettra d'y porter remède. Les hommes croyaient jusqu'en ces derniers temps qu'ils ne pourraient pas vivre sans gouvernement, mais la vie évolue et les conditions de la vie autant que les opinions des hommes se modifient. Malgré les efforts des gouvernants pour maintenir les peuples dans un état d'enfance qui amène le sujet maltraité à se féliciter d'avoir à qui se plaindre, les hommes, et en particulier les ouvriers, tant en Russie qu'en Europe, se dégagent de plus en plus de leur situation de mineurs et commencent à comprendre les véritables conditions de leur vie. Vous nous affirmerez que seul vous pouvez nous défendre contre l'envahissement des peuples voisins, chinois, japonais, disent maintenant les gens du peuple. Mais nous lisons les journaux et nous savons que personne ne nous menace de la guerre. Nous savons que vous seul, gouvernant, dans un but impossible à démêler, vous irritez les peuples les uns contre les autres. Puis, sous prétexte d'assurer notre défense, vous nous ruinez par des impôts afin d'entretenir vos flottes, vos armées, construire des chemins de fer stratégiques servant uniquement votre ambition. Vous entreprenez des guerres pareilles à celles que vous faites aujourd'hui au Pacifique chinois. Vous dites que vous protégez, pour notre plus grand bien, la propriété foncière. Mais Cette protection n'aboutit qu'à faire passer toutes les terres entre les mains des compagnies, des banquiers, des riches qui ne les travaillent pas. Tandis que nous, l'énorme majorité du peuple, nous sommes complètement dépossédés et à la merci des oisifs. Vos lois ne protègent pas la propriété de la terre, mais permettent qu'on enlève la terre à ceux qui la travaillent. Vous protégez, dites-vous, le produit du travail de chacun. Or, c'est le contraire que vous faites. Tous ceux qui produisent les objets précieux n'arrivent pas, grâce à votre prétendue protection, à se faire payer le prix réel de leur travail. Bien mieux, leur existence dépend entièrement du bon plaisir de ceux qui ne travaillent pas. On dit que la disparition des gouvernements entraînera celle des institutions sociales, d'instruction et d'éducation, si nécessaire à tous. Mais pourquoi faire cette supposition ? Pourquoi penser que les dirigeants disparus, les hommes, ne sauront pas organiser eux-mêmes leur vie aussi bien que le font les gouvernants ? Non pour eux, mais pour les autres ? Nous voyons au contraire que de notre temps, dans les circonstances les plus diverses, les hommes parviennent à organiser eux-mêmes leur vie bien mieux que n'y réussissent les gouvernants. Nous voyons se former sans l'appui du gouvernement et souvent malgré son intervention toutes sortes d'institutions sociales. Syndicats ouvriers, sociétés coopératives, compagnies de chemin de fer. On a besoin de réunir une certaine somme d'argent. Pourquoi penser que des hommes libres ne la fourniraient pas sans contrainte ? Afin d'instituer ce qui se fait aujourd'hui à l'aide de l'impôt, au cas où l'entreprise était réellement utile à la société. Pourquoi penser qu'il ne peut y avoir des tribunaux sans violence ? Il y a toujours eu, il y a encore, des sentences d'hommes qui acceptent avec confiance les plaideurs, sans qu'on ait besoin de les y forcer. Nous sommes tellement dépravés par un long esclavage que nous ne pouvons pas nous représenter une administration qui ne s'appuierait pas sur la force. Il n'en existe pas moins. Des communautés russes qui émigrent dans des contrées lointaines où notre gouvernement ne peut s'immiscer dans leurs affaires, organisent elles-mêmes l'administration, la justice, la police, la perception de leurs impôts, et elles prospèrent jusqu'au jour où le gouvernement du pays intervient et emploie ses procédés violents. Celui-là seul qui possède des dizaines de milliers d'hectares en forêt a besoin de protection, quand près de lui des milliers d'hommes manquent de bois pour se chauffer. Cette protection est aussi nécessaire aux patrons des usines et des fabriques, où des générations d'ouvriers furent et sont encore frustrés du produit de leur travail. La protection est plus nécessaire encore aux détenteurs de centaines de mille poutres de blé en attendant une année de disette afin de les vendre avec un bénéfice usurier aux populations affamées. On dit habituellement supprimer la propriété de la terre et le fruit du travail, et personne ne sera certain de conserver ce qu'il a produit. Aussi, cessera-t-il de travailler ? C'est tout le contraire qu'il faudrait dire. La protection violente d'une propriété illégitime, si elle n'a pas complètement détruit, a du moins sensiblement affaibli chez les hommes l'idée naturelle de justice, qui commande de ne pas accaparer les objets de consommation qui sont la propriété innée sans laquelle l'humanité ne peut vivre. Idée qui a toujours existé et existe dans la société. On peut assurément dire que les chevaux et les bœufs ne peuvent rien produire s'ils ne sont pas contraints par les hommes, créatures raisonnables. Mais pourquoi les hommes subiraient-ils les violences des êtres qui ne leur sont pas supérieurs mais semblables ? Pourquoi les hommes doivent-ils se soumettre à ceux d'entre eux qui, à un moment donné, détiennent le pouvoir ? Où est la preuve que les gouvernants sont plus sages que les gouvernés ? Le fait même qu'ils s'autorisent à user de violence envers leurs semblables démontre qu'ils ne sont pas plus, mais moins sensés que ceux qui se soumettent à eux. On dit « comment les hommes pourraient-ils vivre sans gouvernement, c'est-à-dire sans contrainte ?» Il faudrait dire au contraire « comment les hommes, êtres raisonnables, peuvent-ils vivre en commun, groupés par la violence, au lieu de l'être par le consentement raisonné ?» De deux choses l'une. Où les hommes sont des créatures douées de raison, ou ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, aucun ne peut l'être. Dès lors, tout parmi eux est réglé par la violence, et il n'y a aucun motif pour que les uns aient plus de droits que les autres d'en user. Et celle employée par le gouvernement ne saurait avoir de justification. Si au contraire, les hommes sont doués de raison, leurs rapports doivent être inspirés par la raison et non s'établir par la violence de ceux d'entre eux qui se sont, par aventure, emparés du pouvoir. Aussi, les hommes disent-ils que la destruction du régime gouvernemental amènerait celle de tout ce qui a été acquis jusqu'ici par l'humanité, que l'État a été et est toujours l'unique forme sous laquelle l'humanité peut se développer, et que tous les abus peuvent être corrigés sous l'anéantissement d'une organisation dont ils sont indépendants et qui permet à l'homme de progresser et d'arriver au plus haut degré de bien-être. Et ceux qui pensent ainsi appuient leurs opinions sur des arguments philosophiques, historiques et religieux qui leur semblent irréfutables. On peut écrire des volumes entiers en faveur de la première thèse. Ils sont déjà écrits depuis longtemps, et on en écrit encore. Mais on peut également écrire beaucoup contre, ce qui, quoique plus récemment, a été fait, et d'une façon magistrale. Mais on ne peut pas prouver, comme cherchent à le faire les défenseurs de l'État, que la destruction du régime actuel amènerait l'anarchie, le brigandage, l'assassinat, la ruine de toutes les institutions et le retour de l'humanité à la barbarie. Encore moins peut-on le démontrer par l'expérience, car il s'agit tout d'abord de savoir s'il faut la tenter ou non. La question de savoir si le moment de renverser l'État est arrivé ou non serait donc insoluble s'il n'existait pas un autre moyen de la résoudre avec certitude. Les poussins sont-ils assez développés pour qu'on éloigne la couveuse et qu'on les laisse sortir des œufs? Ou est-il encore trop tôt? C'est une question qu'ils décideront d'eux-mêmes lorsque, ne pouvant plus tenir dans la coquille, ils la briseront à coups de bec et en sortiront. De même, le temps est-il arrivé ou non pour les hommes de détruire la forme gouvernementale actuelle et de la remplacer par une nouvelle? Si l'homme, par suite de la conscience supérieure qui est née en lui, ne peut plus se soumettre aux exigences de l'État, s'il ne peut plus s'en contenter et en même temps n'a plus besoin de la protection de l'État, la question est résolue par ceux qui ont déjà dépassé la forme étatiste et qui en sont sortis comme le poussin de l'œuf, où ne pourrait le faire rentrer aucune force au monde. Il est fort possible que l'État ait été nécessaire et le soit aujourd'hui pour tous les avantages que vous lui reconnaissez, dit celui qui sait assimiler la conception chrétienne de la vie. Je sais seulement, ajoute-t-il, que pour moi, d'une part, je n'ai plus besoin de l'État, et d'autre part, je ne peux plus commettre les actes qui sont nécessaires à son existence. Organisez-vous comme vous l'entendez. Moi, je ne puis démontrer ni la nécessité, ni l'inutilité de l'État. Mais je sais ce dont j'ai besoin et ce qui m'est inutile, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je n'ai pas besoin de m'isoler des hommes des autres nations. C'est pourquoi je ne puis pas reconnaître mon appartenance exclusive à une nation quelconque et je refuse toute sujétion. Je sais que moi, je n'ai pas besoin de toutes les institutions gouvernementales actuelles. C'est pourquoi je ne puis, en privant les hommes qui ont besoin de mon travail, le donner sous forme d'impôt au profit de ces institutions. Je sais que moi, je n'ai pas besoin ni d'administration ni de tribunaux fondés sur la violence. C'est pourquoi je ne peux pas participer ni à l'administration ni aux actes de justice. Je sais que moi, je n'ai pas besoin d'attaquer les hommes des autres nations, de les tuer ni de me défendre contre eux les armes à la main. C'est pourquoi je ne puis prendre part à la guerre ni m'y préparer. Il est fort possible qu'il se trouve des hommes considérant tout cela comme nécessaire. Je ne m'en occupe pas. Je sais seulement, mais d'une façon absolue, que je n'en ai pas besoin. Ceux qui parlent ainsi sont déjà nombreux. Cependant, eux aussi continuent à subir le régime étatiste, voire concourent à son maintien. Quelle en est la cause ? Thank you. Chapitre 10. Les formes sociales changent, mais la violence prédomine toujours dans les rapports des hommes. Il est donc manifeste que la cause de la singulière contradiction, montrant les hommes à la poursuite de l'idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, par des moyens qui excluent la possibilité de sa réalisation, cette cause est dans le fait que les hommes ont déjà vaguement conscience de la conception religieuse correspondant à l'âge actuel de l'humanité, tandis qu'ils sont tellement attachés aux formes anciennes de vie qu'ils ne sauraient en imaginer d'autres, conformes à la nouvelle conception. Tel l'enfant, devenu adulte et qui, par l'habitude prise, voudrait qu'on continue à l'aider à s'habiller et à le faire manger. L'ordre des choses existants ne s'accordant plus avec l'âge de la société, mais la nouvelle conception n'étant pas encore assimilée par elle, toutes les tentatives d'amélioration de cet ordre de choses sont dirigées vers l'amendement des formes sociales extérieures. Or, cette modification superficielle est inconciliable avec l'idéal d'une vie libre, fraternelle et raisonnée. Aussi, pour la réaliser ou seulement pour pouvoir en approcher, tout le système actuel doit être aboli. Il importe surtout que le gouvernement soit juste ou, s'il agit mal, qu'il soit remplacé par un meilleur. Alors tout ira bien, tous seront égaux, libres et la concorde régnera, pensent la plupart des hommes de notre temps. Les uns croient qu'il suffit à cet effet de conserver l'état des choses établies en laissant au gouvernement le soin de le régulariser et se préoccupent seulement d'écarter les obstacles sur sa route. Ceci sont connus sous le nom de conservateurs. D'autres estiment que la mauvaise organisation actuelle doit et peut être corrigée par l'introduction de nouvelles lois et constitutions garantissant la liberté et l'égalité. Ceux-ci sont appelés libéraux. D'autres, enfin, disent que tout le régime actuel est mauvais, qu'il doit être supprimé et remplacé par un plus parfait. Il établirait l'égalité complète, au point de vue économique principalement, il assurerait la liberté et la fraternité de tous les humains sans distinction de race ni de nationalité. Ce sont les révolutionnaires de diverses nuances. Tous les représentants de ces partis d'opinions si divergentes sont d'accord, cependant, sur le principal moyen d'améliorer la condition des hommes : l'autorité gouvernementale, c'est-à-dire la contrainte. Ainsi pensent et disent les hommes qui ont le loisir de discuter les grands problèmes sociaux. En ces derniers temps, ces sociologues sont devenus particulièrement nombreux. Je ne crois pas exagérer en disant que ceux à qui la situation de fortune le permet consacrent la majeure partie de leur temps à des discussions et à des démonstrations réciproques sur la meilleure manière pour le gouvernement de réaliser plus ou moins l'égalité, la liberté, la fraternité. Quant à la majorité des travailleurs manquant de loisirs pour discuter les questions d'intérêt général et s'enseigner mutuellement, au fond, ils pensent et disent de même. Le perfectionnement de l'organisation sociale peut être réalisé par le gouvernement seul. Aussi, loin de souhaiter sa disparition, ils mettent tout leur espoir en lui, en son amélioration présente ou future. Riches et pauvres non seulement pensent, mais agissent ainsi. L'ancien régime est maintenu en Chine, en Turquie, en Abyssinie, en Russie. On ne le modifie en rien, et tout va de mal en pis. En Angleterre, en Amérique, en France, on cherche à amender le système social en perfectionnant la Constitution. Et cependant, l'idéal de liberté, d'égalité, de fraternité est aussi loin de sa réalisation. En France, en Espagne, dans les républiques sud-américaines, en Russie actuellement, des révolutions furent et sont organisées. Mais qu'elles réussissent ou non, comme la vague renvoyée, l'ancienne situation revient toujours, parfois même aggravée. Que l'ancien régime demeure ou soit changé, l'absence de liberté et l'animosité restent les mêmes. Châtiment, prison, bannissement, impossibilité d'acheter des objets sans droit de douane, ni de jouir des instruments de travail. C'est la même privation des travailleurs du droit à la terre sur laquelle ils sont nés. Comme au temps du Joseph de la Bible, c'est la même haine entre nations, le même envahissement des peuples sans défense de l'Afrique et de l'Asie, comme sous Gengis Khan, même cruauté, même torture de l'emprisonnement cellulaire. et des compagnies disciplinaires rappelant le temps de l'Inquisition. Même armée permanente et esclavage militaire, même inégalité comme entre le pharaon et ses esclaves, entre les Rockefeller ou les Rothschild et leurs serfs. Les formes sociales changent, mais les rapports entre les hommes demeurent invariables. Et c'est pourquoi nous n'avançons pas vers l'idéal égalitaire. Si même nous avons avancé sur le chemin de cet idéal, ce n'est pas en raison des modifications apportées au pouvoir gouvernemental, mais plutôt malgré les obstacles semés par celui-ci. Si l'on a cessé de dévaliser les gens dans les villes, on le doit non à des lois nouvelles, mais au meilleur éclairage des rues. Si des gens ne meurent pas aussi souvent de faim, cela n'est pas non plus dû à une organisation plus parfaite des pouvoirs publics, mais aux voies de communication. Si l'on ne brûle plus les sorcières, si l'on ne recourt plus aux tortures comme moyen d'instruction judiciaire, si on ne coupe plus aux condamnés le nez, la langue et les oreilles, ce n'est point grâce aux transformations introduites dans le mécanisme gouvernemental, mais au progrès des connaissances et des sentiments absolument indépendants de ce mécanisme. Les formes extérieures changent avec l'âge de l'humanité. Autrement dit, avec le développement de ses forces intellectuelles et de sa maîtrise croissante sur la nature. Mais le fond reste le même, tel un corps qui, dans sa chute, change sa position, tandis que la ligne que suit son point de gravité demeure invariable. Lancer un chat d'une hauteur. Il peut tourner sur lui-même, avoir la tête en haut ou en bas. Son centre de gravité ne sortira pas de sa ligne de chute. Il en est de même des changements des formes extérieures de la violence gouvernementale. Il semblerait que les hommes, en tant qu'êtres doués de réflexion et qui veulent être guidés par un idéal de bien, devraient choisir entre ces deux alternatives, ou bien renoncer à l'idéal de raison, inconciliable avec la violence, ou bien rejeter celle-ci et ne plus l'employer. Or, ils n'adoptent aucune de ces conduites, mais simplement modifient à l'envi les formes de violence. Il procède à l'instar d'un homme qui, chargé d'un poids inutile, tantôt en modifie le paquetage, tantôt le déplace de son dos sur ses épaules, du dos sur les reins et de nouveau sur le dos, sans que l'idée lui vienne de faire le seul acte nécessaire, s'en débarrasser. Le plus malheureux est que, tout préoccupé par l'amélioration des formes de violence, ce qui ne peut changer leur situation, les hommes s'éloignent de plus en plus de l'activité qui seule peut leur procurer un réel bien-être.